Bonsoir, il est 18h, le moment de votre émission « Une heure en Palestine » comme tous les mercredis sur Radio Galère 88.4. Émission animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence qui anime l'émission. Je suis avec Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir.
Et je suis Bernard. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestinetrend13.org. Vous pouvez également consulter nos pages Facebook Palestine 13 et BDS Provence. Vous pouvez aussi nous écrire à asso.palestine13@gmail.com et bdsprovence@orange.fr. Merci à Sidi qui assure la technique de l'émission. Nous allons commencer par la venue le samedi 12 juin, c'est-à-dire la semaine dernière, de Samla Amouri à Marseille, cet avocat franco-palestinien expulsé d'Israël après une longue détention administrative. Il a tenu une conférence intitulée « Quelle justice pour le peuple palestinien ?» et en présence de la Marseillaise dont je vais vous expliquer un petit peu le compte-rendu. Donc la réunion a eu lieu à la Bourse du Travail pour une raison simple, c'est que la municipalité n'a pas voulu accorder une salle pour la venue de Salah Amouri. On sent bien que le CRIF était là derrière. Salah Amouri a donc tenu cette conférence sous l'impulsion du collectif Palestine en résistance et avec le soutien de l'UDCGT13 en présence de représentants de nombreux partis politiques, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PC, et d'associations, la LDH, Union Juive Française pour la Paix, BDS, etc. Parler de Salah Amouri, c'est parler de tous les prisonniers palestiniens, décrit Elsa Lefort, sa compagne. En effet, il a été détenu à plusieurs reprises par Israël avant d'être expulsé du pays. Une expulsion que le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifiée de violation du droit humanitaire international. Pas de quoi convaincre le CRIF, Marseille-Provence, qui le décrit comme un authentique terroriste, pointant le fait qu'il a plaidé coupable de la tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël. Plaider coupable en Israël, il faut se souvenir de ça. Hein. C'est une négociation de peine. Et qui dit quoi ? On lui a dit, si tu veux t'en sortir plus vite, il faut plaider coupable. Donc évidemment, en plaidant coupable, on s'accuse de quelque chose qu'on n'a pas commis. Avant de pointer que les 5000 prisonniers politiques palestiniens en Israël et de décrire les conditions de détention indignes. Enfants jugés par les tribunaux militaires, pas de soins pour les malades, isolation quasi totale des détenus. Il a aussi insisté sur la question de la détention administrative en Israël, qui permet d'incarcérer des suspects sans réelle accusation. De nombreux prisonniers sont dans cette situation. Forcément, l'avocat a enfin dénoncé le projet colonial et une politique d'apartheid qui continue. Prenant pour exemple les confiscations et expulsions régulières des Palestiniens de leur logement. Mais Jean-Yves, je crois qu'à la suite de cette conférence, tu as quelques informations complémentaires à nous apporter.
Voilà, l'UJFP a publié quelque chose en disant que le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié cette expulsion de crime de guerre, tu l'as déjà dit. Mais une commission de l'ONU qui a été créée en 2021 pour enquêter sur les causes profondes du conflit israélo-palestinien. Et cette commission s'est penchée plus longuement sur le sujet. Elle a publié un rapport la semaine dernière qui confirme qu'il s'agit d'une grave violation du droit international humanitaire international. Salah Amouri est quand même né à Jérusalem Est et on l'a chassé de chez lui. Hein. Il ne fait aucun doute que la révocation du permis de résidence de Salah Amouri à Jérusalem-Est fondée sur un prétendu défaut d'allégeance à l'État d'Israël, constitue un crime de guerre, a indiqué dans un communiqué Chris Sidoti, membre de la commission. Et la commission, donc, elle entend examiner la responsabilité pénale des personnes impliquées dans son expulsion et a commencé à établir une liste de ceux qui pourraient être tenus pénalement responsables. Nous avons conservé des informations sur les personnes qui portent la responsabilité de ce qui pourrait s'apparenter au crime de guerre que constitue l'expulsion illégale. Israël est un... C'est une armée occupante et en tant qu'armée occupante, le droit international lui impose un certain nombre de règles, dont le non-déplacement de population, etc. etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, il y en a qui ont même parlé de... qu'il a été... Ah ça y est, j'ai oublié le mot qu'il a eu. Il a été déporté, voilà, il était chez lui, il a été déporté. Ce qui a fait hurler, bien entendu, le CRIF et beaucoup d'autres.
Oui, mais voilà ce que j'ai appris, moi, là, enfin, que j'ai appris, qu'il faut noter, c'est que cette histoire de plaider coupable, qui est une entourloupe épouvantable, de dire au gars, plaide coupable, ça va amoindrir ta peine, ça ira mieux après. Donc le CRIF prend son tambour et son porte-voix en hurlant, c'est un terroriste, puisqu'il a plaidé coupable. Évidemment, ce genre de piège se referme sur l'individu, pris évidemment dans une nasse épouvantable, parce que pour s'en sortir, il pense, qu'il pense que, mais en fait, c'est pas vrai, puisqu'à la longue, on lui dira toujours tu es un terroriste parce que tu as plaidé coupable.
Voilà, en fait, il a fait sept ans de prison, je crois, au lieu des exactions qui sont commises contre les Palestiniens, par les colons, mais aussi par l'armée. La plus morale du monde, c'est comme Israël aime à la qualifier. Hein. Alors, quand on voit ce qu'ils font, bien entendu. Hein. Alors, donc, dans ce... Dans ce rapport hebdomadaire, donc, il y a plusieurs morceaux, et en particulier, donc, on commence par les atteintes aux droits et à la vie et à l'intégrité corporelle des Palestiniens. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que ce serait trop long, mais on va faire un peu une synthèse de ce qui s'est passé depuis le début de l'année de 2023. Donc, depuis le début de l'année 2023, les forces d'occupation ont tué 156 Palestiniens. Parmi eux, il y avait 78 civils, et dont 25 enfants et 6 femmes. Alors, il n'est pas compris là-dedans, mais dernièrement, je crois que c'est la semaine dernière, il y a un enfant de 2 ans qui a été tué par une balle de militaire israélien.
Oui, il y avait sa photo sur tous les réseaux sociaux. C'était épouvantable de voir un enfant...
qu'un terroriste.
Voilà, un enfant qui sait à peine marcher.
Voilà. Et donc, tous les autres étaient des membres de groupes armés palestiniens. Donc, il y a 7 qui ont été tués par des colons, et il y a eu 2 morts dans les prisons israéliennes. Pendant ce temps, il y a 671 Palestiniens, dont 105 enfants, 26 femmes et 12 journalistes qui ont été blessés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Donc pour info, ça ne fait pas partie non plus de ce que je viens de dire. À Jenin, depuis lundi, l'armée israélienne a envahi le camp de réfugiés et a tué, alors selon les chiffres, entre 3 et 7 Palestiniens. Il y a une cinquantaine de blessés, donc c'est des informations parcellaires. Mais surtout, il y avait au-dessus du camp de Jenin des hélicoptères ont tiré des missiles sur... Alors, quand on sait comment les camps sont organisés...
Voilà. Oui, surtout que la solidité des camps, oui.
Voilà. Mmh. Alors, parmi les crimes de guerre commis par l'armée israélienne, il y a tout ce qui concerne les démolitions, avis de démolition, etc. Donc, depuis le début 2023, les forces armées israéliennes ont rendu 94 familles sans abri, ce qui représente quand même un total de 600 personnes, dont 125 femmes et 274 enfants. Donc, c'est le résultat de la démolition de 100 maisons, dont 25 ont été démolies de force par leurs propriétaires. Sinon, ils sont obligés de payer. 10 maisons ont été démolies pour des motifs de punition collective. Ça, c'est pareil,
oui, ça,
le droit
c'est,
international.
C'est du, c'est du fascisme intégral, ça, oui.
Voilà. Ouais. Les forces d'occupation ont démoli également 85 autres biens civils, rasé d'autres biens et délivré des dizaines d'avis de démolition, y compris à Jérusalem-Est. Donc, on sait que dans certains villages bédouins, par exemple, ils détruisent régulièrement les écoles qui ont été en plus payées souvent par l'Union européenne.
Oui, mais l'Union européenne ne dit rien et elle reconstruit l'école, tu comprends ?
Voilà,
c'est très très grave, ça.
Donc après, on a tout ce qui concerne les attaques de colons et les actes de représailles. Donc depuis début 2023, les colons ont mené 219 attaques contre des civils palestiniens et leurs biens. 7 Palestiniens ont été tués, on en a parlé, et des dizaines d'autres blessés. La plupart d'entre eux avaient été battus avec des pierres. En outre, des dizaines de maisons, de véhicules et d'installations civiles ont été incendiées sans que l'armée intervienne, puisque l'armée, elle est toujours là pour protéger les colons, quelle que soit leur responsabilité.
Alors, je crois que ça, il faut insister pour montrer au monde, si le monde a envie d'ouvrir les yeux sur cette question, que des milices, il n'y a pas d'autre nom, hein, des genres de milices de colons qui occupent la Cisjordanie sont protégés par l'armée lorsqu'ils vont commettre leurs exactions contre les populations palestiniennes. Quand ils coupent leurs oliviers, quand ils brûlent leur récolte sur pied encore, et tout, voilà.
Alors, après, on a les incursions et arrestations de civils palestiniens. Donc, depuis début 2023, il y a eu 4431 incursions en Cisjordanie, comme celle sur Jénine dont je viens de parler, y compris à Jérusalem-Est occupée, au cours desquelles donc, il y a 2545 Palestiniens qui ont été arrêtés, dont 25 femmes et 291 enfants. Et les forces d'occupation ont arrêté 34 Palestiniens de la bande de Gaza, parmi eux 12 pêcheurs, 19 infiltrés en Israël et 3 voyageurs au passage d'Eretz. Et ils ont mené 16 incursions à Gaza. Et enfin, donc, tout ce qui concerne le bouclage et les restrictions à la liberté de mouvement, punition collective comprise, donc depuis début 2023, les forces d'occupation ont établi 2646 points de contrôle militaire temporaires sur lesquels ils ont arrêté 126 Palestiniens. Voilà ce que c'est que la vie d'un Palestinien à l'heure actuelle.
Voilà, si on peut comparer, parce que ça fait l'actualité en France, parce que le village qui a brûlé à Ouradour-sur-Glane, qui a été incendié, et toute la population, sauf un, a été réunie dans l'église auquel les Allemands ont mis le feu pour tuer les gens qui étaient à l'intérieur. Voilà, quoi. Là, c'était des nazis, mais Israël se conduit exactement de la même façon.
Voilà. Ben, bon, déjà, une armée, c'est rarement moral, hein, même si on lui impose des règles. On leur apprend à tuer, après tout. Et celle d'Israël est particulièrement virulente envers les civils palestiniens.
Oui, mais le droit...
Ce sont des civils qu'ils ont.
Voilà, oui, mais le droit s'exerce quand on est militaire comme quand on est civil. Alors, évidemment, oui. il y a des armées qui bafouent le droit parce qu'elles usent uniquement de la force, genre ce que fait la Russie quand elle dégomme des gens dans la rue ou quand elle tape sur des immeubles de civils. Donc, voilà. Bon, alors, Jean-Yves, est-ce que comme je n'ai pas le déroulé, là,
j'ai terminé avec ça.
Alors maintenant, moi, je vais vous parler, on reste un petit peu dans la même thématique, d'un nouveau rapport de Defense for Children International Palestine qui a conclu ce rapport par du mauvais traitement de la torture généralisée des enfants palestiniens au déni systématique de leur droit à un procès équitable. Émerge un système de contrôle qui se déguise en justice. Vous n'avez probablement jamais entendu leur nom. Laïd Karma, Amal Naklé, Mohamed Mansour, Jihad Bani Jaber. Le rapport, récemment publié par Defense for Children, prend l'exemple de Laïd, alors âgé de 17 ans. Selon le rapport, du mois de mai du DCIP. Tôt le matin du 20 septembre 2017, vers 2h, des soldats israéliens sont entrés dans la maison de Laït Karma, dans le village de Kafr Haïn, à l'extérieur de Ramallah. Laït a été ligoté, on lui a bandé les yeux. Il n'a pas été informé du motif de son arrestation et aucun mandat d'arrêt ne lui a été présenté. Au cours des 11 heures qui ont suivi, Laït a été transféré à plusieurs endroits, notamment à un poste de contrôle militaire et à un poste de police israélien situé dans une colonie illégale. À l'intérieur de la Jeep, on avait l'impression que le voyage durait des heures, a-t-il déclaré plus tard à l'association. Laït est arrivé au complexe militaire israélien d'Ofer vers 13 heures. Au cours de l'interrogatoire, il a été interrogé sur le fait qu'il avait jeté des pierres, une infraction à la sécurité en vertu de la loi militaire israélienne. Il a nié ces allégations. L'interrogateur a imprimé une déclaration en arabe et en hébreu et l'a fait signer. Le 6 août 2018, trois ans après, près d'un an après son arrestation, les forces israéliennes ont libéré Laït sans explication. Il a passé près de 46 semaines en détention militaire et n'a jamais été formellement accusé d'un crime. Cette détention prolongée l'a obligé à manquer sa dernière année de lycée. Chaque année, 500 à 700 enfants palestiniens sont arrêtés et poursuivis dans le cadre de la détention militaire et du système judiciaire israélien. Selon un rapport de l'UNICEF de 2015, cité par le DCIP, ils subissent des mauvais traitements généralisés, systématiques et institutionnalisés tout au long du processus, depuis le moment de l'arrestation jusqu'à la poursuite de l'enfant et à sa condamnation éventuelle. Le rapport des 39 pages du DCIP, qui a fait l'objet de recherches approfondies et de notes détaillées, comprend des descriptions également détaillées de la détention militaire israélienne, du système judiciaire militaire, des ordres militaires relatifs à l'arrestation, à la détention et à l'incarcération des enfants, ainsi que des lois internationales et des conventions relatives aux droits de l'homme qui s'y rapportent. Le rapport se termine par une liste de mesures que le DCIP demande instamment au gouvernement israélien, à l'État de Palestine et à la communauté internationale de prendre. Quand on entend l'État de Palestine, là, il y a un problème, non, Jean-Yves ?
Oui, parce que oui. Personne n'a jamais... Enfin, ici, il y a quelques États qui ont reconnu l'État de Palestine.
Oui, mais on parle de l'autorité palestinienne.
Ouais.
Donc il y a une petite gourance dans l'énoncé. Ça m'a un peu étonné. Donc on peut parler de ce qui résulte des accords d'Oslo, mais qui n'est pas un État, surtout pas un État. Les protections juridiques internationales relatives à la justice des mineurs sont principalement contenues dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Le traité international sur les droits de l'homme, le plus largement ratifié de l'histoire, déclare le DCIP. Israël a ratifié la CDE en 1991, ce qui l'oblige à mettre en œuvre l'ensemble des droits et des protections prévues par la Convention. Cependant, le DCIP relève qu'en juillet 2013, le Comité des droits de l'enfant a examiné pour la dernière fois le respect par Israël de la CDE et a constaté que la situation était encore pire, que les enfants palestiniens arrêtés par les forces israéliennes étaient systématiquement soumis à des traitements dégradants et souvent à des actes de torture, et qu'Israël avait totalement ignoré les recommandations antérieures visant à se conformer au droit international. L'arbitraire, par défaut, s'appuie sur des témoignages de 766 enfants détenus par l'armée ou la police israélienne en Cisjordanie occupée entre janvier 2016 et décembre 2022. L'étrange d'âge est le nombre de 766 enfants. Il y en a 3 de moins de 11 ans, 21 de 12 à 13 ans, 198 de 14 à 15 ans et 544 de 16 à 17 ans. Les déclarations de ces enfants se sont faites sous serment. Voilà, je croyais, ce qu'on peut dire de cette épouvantable continuité de la maltraitance générale d'Israël à l'égard, cette fois, d'une population enfant, qui est évidemment encore pire que d'autres.
Mais en fait, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, l'armée, souvent la nuit, elle vient frapper à la porte des Palestiniens, elle demande aux gens de se lever, elle emmène souvent un enfant en l'accusant d'avoir jeté des pierres. L'enfant est emmené sans ses parents, sans son avocat, on lui fait signer des choses qu'il ne comprend pas, et voilà, et on le garde en prison, des fois plusieurs semaines. Donc, en plus avec de la torture morale et physique. Hein. Et donc, il y a beaucoup de rapports qui parlent de ça. Hein. On parle même de fouilles à nu, de menaces d'agression sexuelle, etc. Hein. Donc, laisser un enfant entre les mains de militaires à qui on a toujours dit les Palestiniens sont des terroristes, ce sont nos ennemis, etc. C'est franchement scandaleux.
Et surtout, laisser un mineur sans un adulte accompagné dans ce périple. C'est-à-dire que l'enfant qui a 11 ou 12 ans, qui est privé d'un adulte de sa famille ou de ses proches, qui se trouve entre les mains de l'armée, c'est strictement épouvantable.
Voilà.
Voilà. Donc,
alors, je continue avec...
Oui.
On a parlé des subventions que l'UE octroie aux Palestiniens pour reconstruire des écoles et qui sont détruites par la suite par par l'armée israélienne sans que l'Europe s'en offusque. Hein. Et par contre, l'UE, elle ne fait pas que donner de l'argent aux Palestiniens pour reconstruire des écoles. Elle donne aussi des subventions sur des sujets scientifiques. Par exemple, il existe subvention, enfin, c'est un truc qui a été mis en place par l'Europe et qui permet de donner des subventions sur des sujets scientifiques, etc. Et donc l'Europe justifie son action par le fait qu'elle donne des subventions aux Israéliens, mais également aux Palestiniens. Hein? Donc on a beaucoup de programmes scientifiques avec Israël, et c'est à travers ces trucs-là que ce genre de programme que l'Europe participe d'ailleurs à fournir de l'argent à des entreprises qui participent à l'oppression des Palestiniens. Donc c'est un article qui a été écrit par David Cronin, hein, et en fait il a écrit de nombreux articles, et c'est un activiste politique qui a essayé d'appliquer un état d'arrestation citoyenne à Tony Blair et à Avigdor Lieberman pour crimes contre l'humanité. Alors en fait il dit, j'entends des responsables de l'UE justifier leur approbation des subventions de recherche qui sont accordées à Israël, en faisant remarquer que les Arabes aussi reçoivent de telles subventions. Et il est allé chercher un document interne à l'Union européenne qui démontre que de telles tentatives de justification sont totalement trompeuses. Si on compare avec Israël, entre les sommes perçues par Israël et les sommes que perçoivent les Palestiniens sur le budget scientifique de l'UE, eh bien, en comparaison, les Palestiniens ne reçoivent pratiquement rien. Donc les allégations concernant l'équilibre des subventions sont des pures balivernes. Et donc la somme que les Palestiniens obtiennent est une broutille. Alors ils donnent des chiffres. Donc dans le cadre d'Horizon 2000, donc c'est le programme dont j'essayais de trouver le nom tout à l'heure, voilà. Horizon 2020, c'est un programme qui a été fait et sur lequel les Palestiniens ont reçu 333 000 dollars US de financement européen pour des programmes scientifiques sur la période qui allait de 2014 à 2020. Donc 333 000 dollars pour les Palestiniens, alors qu'en même temps, Israël a reçu 1,3 milliard de dollars, c'est-à-dire 4 000 fois plus. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a de nouveaux programmes qui commencent, puisque le Horizon 2020 est un programme qui s'est terminé. Et dans les nouveaux programmes, les Palestiniens reçoivent encore moins que ce qu'ils ont reçu sur le précédent programme. Et Israël, de son côté, obtient davantage encore. Donc l'écart se creuse.
Et sans contrepartie, c'est-à-dire qu'Israël, qui n'est pas un État sous perfusion du...
Si, il est sous perfusion des États-Unis.
Bon. Non, mais il a une économie qui tourne quand même.
Ben, bien sûr, après bon. Avoir volé tout un tas de trucs aux Palestiniens.
Donc, quand ils reçoivent des sommes pareilles, il n'y a aucune contrepartie ou il y a des contreparties? Non, il n'y en a pas.
Non, il n'y a pas de contrepartie, et encore moins des contreparties sur l'aspect droit de l'homme, l'aspect respect du droit international. Non, non. On leur donne de l'argent. En fait, je ne sais plus, je crois que c'est Herzl qui avait dit que Israël pourrait être, enfin il n'appelait pas Israël à l'époque, pourrait être la tête de pont de l'Occident au Moyen-Orient. Et en fait, c'est une émanation de l'Europe, puisqu'il participe à tout un tas de manifestations sportives, culturelles ou autres.
Même à l'Euro 2024, mais ils ne sont pas très bien placés dans les poules, hein, donc ça va.
Oui,
mais
enfin, ça fait parler d'eux. Quoi.
Oui.
Voilà, donc, en fait, le milliard et quelques qu'Israël a reçu sous l'horizon 2020 représente une augmentation substantielle par rapport aux 950 millions de dollars qu'ils avaient retirés du précédent programme entre 2007 et 2013. Et en fait, la science financée par l'Union européenne peut bénéficier à certaines entreprises qui sont les pires violateurs des droits humains. Alors, il prend l'exemple de Mekorot. Mekorot, c'est la compagnie des eaux en Israël. Donc, aujourd'hui, c'est elle qui exploite toutes les sources, tous les points d'eau en Israël et en Cisjordanie, donc en violation du droit international, puisque la firme Mekorot, en fait, elle vole l'eau des Palestiniens, oui. et elle leur revend, et elle en détourne la majeure partie vers les colonies israéliennes qui se trouvent en Cisjordanie occupée. Et le document de l'UE se vante néanmoins de la façon dont Mekorot et l'autorité palestinienne ont coopéré efficacement dans un projet énergétique financé par l'Union européenne. Alors c'est quand même aberrant. Obtenir de l'autorité palestinienne qu'elle fasse un partenariat avec un voleur d'eau israélien, et c'est manifestement considéré comme un succès à Bruxelles. Et en parlant de partenaires, le document met le doigt sur la collaboration entre les diplomates de l'UE à Tel Aviv,
oui.
et Startup Nation Centrale, mais omet de faire remarquer que Startup Nation Centrale, c'est une entreprise qui fait partie de la machine de guerre israélienne. Donc voilà, on donne des subventions à Israël pour qu'il continue à opprimer les Palestiniens. Voilà, donc...
Très bien. Alors, on va faire notre pause musicale ici avec Mohamed Assaf.
Mohamed Assaf,
oui.
Le chanteur de Gaza.
Le chanteur de Gaza. Et tu nous rappelles le titre, Jean-Yves ?
Alors, le titre, j'ai utilisé une traduction automatique. Et en fait, ça voudrait dire « Avec amour », signé Mohamed Assaf.
D'accord.
Mohamed Assaf, pardon.
Mohamed Assaf, oui.
تحت الأحد تربى فوق عرش الورد يا أجمل حسن بس عندي وعليها عيون ما تمل وخشم مثل سيف سل غزتني وقلبي كان عزال معها صرت أنا ضد بخلي كل خلق الله وبفضل حبها والله وبتقهوى من الدلة وتن من غير ما بدي ولا قيس ولا عنتر جنون بحبها أكثر أبيها صدق ما أقدر يا رب شبك يدا بيد
Voilà, merci à Mohamed Assaf, l'inoubliable chanteur de Gaza, qui dans un film tonitruant et très très haletant, avait fait un départ de chez lui et petit à petit avait surmonté toutes les difficultés pour arriver à quelque chose qui ressemblerait à The Voice, et était arrivé à se faire entendre et à gagner le concours de chant. Alors maintenant, je vais vous parler d'un aspect qui est nouveau, là, mais qui est quand même très inquiétant. Israël s'apprête à faire venir 10 000 Indiens pour des emplois traditionnellement occupés par des Palestiniens. On voit tout de suite l'axe. Hein. L'afflux de travailleurs indiens en Israël serait un signe tangible des répercussions sur la vie quotidienne des Palestiniens de la coopération avec New Delhi, de l'État israélien. Non seulement Israël occupe illégalement la Palestine et l'asphyxie, mais par ce genre de décision, le gouvernement israélien emmure un peu plus la population en âge de trouver du travail en Israël. Près de 100 000 Palestiniens travaillent de l'autre côté du mur. Israël s'apprête donc à faire venir 10 000 travailleurs indiens. Ces derniers indiquent le signe de l'approfondissement de la coopération économique et politique avec New Delhi, selon plusieurs sites d'information en hébreu. Ces derniers indiquent que les travailleurs arriveront par étapes et que 2500 emplois dans la construction et les soins infirmiers sont prévus. L'accord final est toujours en cours d'élaboration entre les responsables israéliens et indiens. Nous attendons à ce que les accords soient approuvés d'ici peu et nous pourrons bientôt commencer à mettre en place les mécanismes nécessaires pour employer une main-d'œuvre qualifiée de manière appropriée et supervisée, a déclaré un porte-parole du ministère israélien de la population et de l'immigration. Les pourparlers font suite à la visite du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, début mai, en Inde, où il a signé un accord avec son homologue indien pour faire venir quelque 42 000 travailleurs indiens en Israël, dont 34 000 sont destinés à la construction et 8 000 aux soins aux personnes. Des responsables israéliens auraient visité des centres de formation, en Inde en mars, avant les pourparlers, l'autorité israélienne de la population et de l'immigration a décrit les travailleurs indiens comme diligents, expérimentés et parlant couramment anglais. Le port de Haïfa, l'indien Adami et le projet d'Israël pour le Moyen-Orient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quand même, quand on voit les checkpoints où tous les matins les Palestiniens s'entassent et que malgré tout ils ont le courage de surmonter cette épreuve atroce et d'aller travailler en Israël, de revenir et de savoir que le lendemain matin ça va recommencer. Pour couper l'herbe sous les pieds et faire des Palestiniens des chômeurs, Israël a une comme très bonne idée de faire venir des travailleurs de l'État indien. Mais, parce que j'ai fouillé un petit peu, vous savez, dans le Cachemire, il y a des musulmans. Donc, on prend les musulmans, on essaiera de vider cette population et de la transférer en Israël. Comme ça, Israël rend service, en somme, à l'Inde. parce que l'État indien est de plus en plus rigoriste sur la pureté de son, de sa population. Et donc les musulmans sont mal vus, persécutés, pas totalement, mais enfin, si on peut les dégager, on les dégage. Voilà. Et puis, l'autre aspect, c'est que le racisme va progresser aussi là-dessus, puisque ce seront des travailleurs immigrés qui seront reconnaissables dans la rue, qui seront certainement pas bien traités du tout. Voilà, les citoyens palestiniens ont également été victimes, les Palestiniens d'Israël, de discrimination pour leur action politique. En 2021, lorsqu'Israël et les territoires palestiniens occupés ont connu des manifestations de masse, des centaines de travailleurs ont été licenciés par des employeurs israéliens pour avoir participé à une grève générale. Donc là, on voit aussi comment on cherche à recruter une catégorie de travailleurs beaucoup plus tranquille. Israël se sert aussi régulièrement de la délivrance de permis de travail pour exercer une influence et un contrôle sur l'économie palestinienne, selon les experts. Les responsables indiens ont cité les politiques d'Israël vis-à-vis des Palestiniens comme modèle, voilà, on y vient, pour leur contrôle du Cachemire, où New Delhi a été accusé de mener une campagne d'expulsion massive des musulmans afin de modifier les caractéristiques démographique de la vallée contestée. Voilà, on y vient. Voilà, donc Jean-Yves...
Entre fascistes...
Entre fachos, on se comprend, oui. Parce que le gouvernement indien d'aujourd'hui, hyper-nationaliste, revêt à peu près tous les costumes de tous les affreux qui vivent, qui gouvernent avec ces méthodes, c'est-à-dire Israël, la Russie, à un moyen terme, la Hongrie, enfin, vous voyez, le profil type de gens qui veulent purifier leur population.
Bon, enfin, là, ils importent chez eux des musulmans, donc c'est peut-être aussi une façon de renforcer le racisme anti-musulman, hein, parce que, franchement...
Oui, mais c'est, ils répondent favorablement à...
L'objectif d'Israël a l'air d'être principalement de mettre les Palestiniens dans la misère, puisqu'ils auront moins de travail,
bien sûr.
Et les inciter donc à partir de quitter la région.
Alors maintenant, voilà. Tu vas nous parler d'Omar Barghouti.
Voilà, alors Omar Barghouti, c'est celui qui a lancé en 2005 le mouvement BDS.
Exact.
Boycott, désinvestissement. Sanctions, boycott, c'est action individuelle. Hein. Désinvestissement, c'est on demande aux entreprises de désinvestir d'Israël. Et sanctions, c'est on demande aux États, à ce moment-là, donc d'appliquer des sanctions envers Israël, comme on le fait actuellement avec l'Iran, avec la Russie. Voilà, il y a des sanctions, tout le monde s'y plie plus ou moins, mais contre Israël, jamais de sanctions. Hein. Alors, Omar Barghouti a écrit un article donc, qui est intitulé « C'est BDS ou l'échec hein, », en fait. Et il dit dans son message vidéo célébrant le 75e anniversaire de l'établissement de la colonie européenne d'Israël sur les ruines de la Palestine, notre cher commissaire...
Présidente de la Commission.
De la Commission européenne. Ursula von der Leyen, elle a donné une voix au racisme colonial et à l'hypocrisie, tout ça profondément ancré dans l'establishment européen. Elle a dit « Vous avez fait littéralement fleurir le désert », répétant ainsi un discours qui efface la société palestinienne autochtone et blanchit la destruction par Israël de la terre palestinienne et le nettoyage ethnique. La Palestine n'avait pas attendu les Juifs pour faire refleurir le désert. Et cette célébration très cavalière du colonialisme sioniste par Madame von der Leyen est la suite logique du demi-millénaire d'hégémonie occidentale qu'elle représente, héritage brutal de l'esclavage transatlantique, colonialisme et génocide sur tous les continents habités. Et donc, si on prend l'actuel gouvernement israélien, qui est le plus raciste, le plus à droite, le plus fondamentaliste, le plus autoritaire, le plus corrompu, le plus sexiste et le plus homophobe que l'État d'Israël ait jamais connu, tout ça est à la fois un indicateur décisif de la disparition de cette hégémonie occidentale. Et les politiques actuelles d'Israël, avec la résistance palestinienne qui se manifeste de plus en plus, résistance parfois armée, on l'a vu à Jénine cette semaine, ont eu un impact considérable sur les secteurs financiers et économiques. Il y a une fuite des capitaux, migration de la haute technologie, abaissement des perspectives de crédit des organismes de notation internationaux, disparition des investissements et effondrement de la confiance des investisseurs. Tout ça a incité l'ancien président du Conseil économique national d'Israël à prédire deux scénarios pour l'économie israélienne. Premier scénario, un infarctus, ils sont morts tout de suite. Deuxième scénario, un cancer, ça se développe petit à petit, mais la fin est la même, on en meurt. Et l'économiste en chef d'Israël, Shira Greenberg, a estimé que l'abaissement de la cote de crédit d'Israël éliminerait la moitié de la croissance de son PIB. Plus de 250 chefs d'entreprise juifs américains ont mis en garde contre la destruction de l'économie israélienne, affirmant qu'ils pourraient être contraints de réévaluer leur dépendance à l'égard d'Israël en tant que destination stratégique pour les investissements. Finalement, c'est bien vrai que il n'y a que des sanctions, et des sanctions financières qui plus est, qui peuvent faire changer Israël. Même les patrons américains le disent, parce que les patrons, l'économie, elle a besoin de quelque chose, qui n'a pas besoin de bordel ambiant, etc. Et donc voilà, tout ça, cette situation au fond palestinien et à tous ceux qui luttent pour la libération de la Palestine dans le monde, une occasion unique de faire avancer la lutte pour la liberté, la justice et l'égalité. Et donc il rajoute, c'est là qu'intervient le BDS, le mouvement boycott des investissements de sanctions, et la forme la plus efficace de solidarité internationale avec notre lutte pour le démantèlement du colonialisme et de l'apartheid. Donc, il est ancré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et il s'oppose catégoriquement à toutes les formes de racisme, islamophobie, antisémitisme. Il s'attaque à la complicité et non à l'identité. Donc, c'est souvent ce qui est reproché à BDS d'être antisémite, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Il s'attaque à tout ce qui est complice du colonialisme israélien et du sionisme. Et aujourd'hui, il y a de nombreux partisans juifs israéliens du BDS qui jouent un rôle important. Un sondage réalisé en 2022 montre que 16% de tous les juifs américains soutiennent le BDS. Donc, en augmentation régulière. Voilà. Alors, pour citer les résultats du BDS, par rapport au désinvestissement, il y a de nombreux fonds souverains, par exemple celui de Norvège, du Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la fondation Bill et Melinda Gates. Tous ces fonds se sont désengagés des entreprises et des banques impliquées dans l'occupation israélienne. Dans le même ordre d'idées, la ville belge de Liège a voté en faveur de la rupture de tous les liens avec Israël, citant le régime israélien d'apartheid, de colonisation et d'occupation militaire contre les Palestiniens.
Barcelone aussi.
Voilà, Oslo a fait pareil. La capitale norvégienne a annoncé la fin du commerce avec les biens et les services produits dans les zones illégalement occupées, ce que l'Europe devait faire mais n'a jamais mené au bout. Et tout ça suit effectivement l'exemple de la maire de Barcelone qui avait suspendu tous ses liens avec l'Israël de l'apartheid au début de l'année. Donc voilà, on n'est pas encore au bout de
oui, mais tu vas voir le travail. La campagne actuelle qui est menée par BDS, c'est de dire stop à l'installation de Carrefour dans les territoires occupés. Mmh. Mais comme toujours, que fait Carrefour ? Il enlève Carrefour de sa devanture, son logo.
Oui,
il change le nom. Il vend ses produits sous une appellation qui est une appellation qui a été changée comme une franchise qu'il donnerait à quelqu'un qui s'appellerait Tartempion et qui vendrait ses produits de la même façon. Donc, il faut toujours être très vigilant quand on nous annonce qu'il y a des choses qui... Carrefour recule pour mieux avancer, voilà.
Oui, en fait, pour l'instant, on n'entend pas trop qu'ils reculent. Hein. Enfin, ils ont peut-être changé le nom.
Oui,
mais
non,
ils n'ont pas reculé.
C'est plus eux qui font l'investissement directement, mais ils choisissent des entreprises qui vendent leurs produits. Donc c'est exactement.
Mais c'est quand même, BDS considère quand même que c'est de la collaboration à l'entreprise coloniale israélienne, de la même façon que HP qui fournit en fait qui fournit Israël un ordinateur qui permet de contrôler avec des bases de données de la reconnaissance faciale, etc., les Palestiniens, donc participent à l'oppression du peuple palestinien, et donc il faut le boycotter.
Il faut boycotter, absolument. Alors voilà. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que j'ai trouvé dans Middle East High. Israël présente une loi pour empêcher les citoyens palestiniens de vivre dans les zones juives, entre guillemets. Hein. Les groupes de défense des droits humains ont promis de contester la loi qui permettrait à de nouvelles villes israéliennes d'empêcher les Palestiniens d'acheter des terrains ou d'y louer des appartements. Le gouvernement israélien promeut une législation pour judéiser la Galilée, une région située au nord d'Israël et qui concentre une importante population palestinienne.
Alors il faut quand même remarquer que quand il parle de la Galilée, c'est vraiment en Israël, c'est pas en Cisjordanie.
Non, non,
on est dans l'État d'Israël d'avant 67.
Oui, mais moi je cherchais difficilement, quand je suis allé sur la carte à l'Office du tourisme à Jérusalem, je cherchais difficilement où était la Cisjordanie, et c'était remplacé par la Judée-Samarie.
Judée-Samarie, voilà.
Voilà, donc on est comme des glands, parce qu'on se dit, mais où on est ? Ben, on est nulle part quand on est en Cisjordanie. Cette initiative fait partie d'un accord signé l'an dernier pour former le nouveau gouvernement d'Israël avec les politiciens d'extrême droite, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, qui souhaitent étendre les colonies juives dans la région. Dans le cadre du programme « Sauver les colonies juives en Galilée », le Premier ministre Netanyahou prévoit de renforcer considérablement la loi controversée de 2011 qui autorise des municipalités de taille réduite à évaluer de nouveaux venus potentiels, les nouveaux devenus potentiels. Lorsque la loi a été adoptée, l'objectif était de contourner une règle de la Cour suprême qui interdit aux communautés de résidents de ne louer les terrains qu'aux Juifs. Ces lois donnent un pouvoir discrétionnaire presque total à ces petites communautés de choisir qui y vit, a déclaré Chouad Bichara de Adala, le centre juridique pour les minorités arabes. Dans les faits, ce dispositif est en priorité un outil pour exclure les citoyens palestiniens et empêcher leur établissement au sein de ces communautés. C'est un instrument légal de ségrégation urbaine dans plusieurs agglomérations de l'État d'Israël, a expliqué Mme Bichara à Middle East High. Plus tôt ce mois-ci, le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a déclaré que l'acquisition de maisons par des Palestiniens dans des municipalités et des villes en Israël incitait les résidents juifs à partir de ces lieux. Oh là là, catastrophe. Les Arabes arrivent, on s'en va. Les Arabes achètent des appartements dans des collectivités locales juives de Galilée et ça pousse les Juifs à quitter ces villes car ils ne sont pas prêts à vivre avec des Arabes, a déclaré M. Levin. Alors là, on touche du doigt, tu vois, le grand projet d'un État fédéral, hein, Jean-Yves, quand même. Quand je lis ça, et qu'on peut imaginer que l'État, que le truc à deux États, il ne faut plus en parler parce qu'il vaut mieux aller vers un seul État qui serait un État fédéral, quand je lis ça, je me dis, bonjour la ségrégation, il y aura malgré tout un État d'apartheid qui sera à l'air libre. Désormais,
le gouvernement...
le gouvernement.
Oui, il est déjà là.
Non, mais il est déjà là, mais il se
vraiment de l'apartheid.
Oui,
même
c'est...
en Israël, dans l'Israël même. Quoi.
Oui, mais je veux dire que dans une situation pacifiée, la solution serait la même. C'est-à-dire qu'on aurait des Israéliens, des Juifs, qui sont pas prêts à vivre avec des Arabes. Donc à partir de là, l'apartheid et la ségrégation sont là. Hein. Désormais,
oui,
donc...
après, c'est une éducation. Hein.
Mais oui, mais l'éducation, ça prend 2 siècles, tu le sais. Et oui, désormais. Ouais. Mais oui, avec ce qu'ils leur mettent, tu l'as dit tout à l'heure, ce qu'ils leur mettent dans le crâne dès l'école primaire, en disant de l'autre côté, c'est que des terroristes, comment veux-tu que ça marche, ça ne peut pas marcher. Désormais, le gouvernement israélien est prêt à étendre et approfondir ce système, dit Madame Bichara. Le gouvernement s'est engagé à augmenter le nombre de localités bénéficiant de cette autorisation et à étendre le dispositif, réservé jusqu'alors à celles ayant jusqu'à 400 habitants, à celles accueillant jusqu'à 1000 résidents. En outre, l'extension de la loi reçoit le soutien de nombreux députés de l'opposition. L'adoption en pleine lecture de la loi qui aurait autorisé les villes accueillant jusqu'à 600 foyers à sélectionner ceux qui, emménageant, s'est faite sous l'ancien gouvernement. Officiellement, la loi n'autorise pas les comités d'évaluation à rejeter une candidature sur le fondement de la race, la religion, le genre, la nationalité, le handicap, la catégorie sociale, l'âge, l'affiliation, l'orientation sexuelle, le pays d'origine, opinion ou d'affiliation à un parti. Bon, là, on trouve quand même qu'Israël doit cocher négativement toutes ces cases, hein, à mon avis. Hein. Cependant, le libellé de la loi de 2011 permet au comité de refuser les candidats qu'il juge inadéquats à la construction des liens culturels et sociaux de la communauté. De la communauté, de la communauté qui se veut majoritaire, j'imagine, culturellement juive, religieusement juive et israélienne de préférence. Une violation éhontée des lois sur les droits humains. Plus tôt ce mois-ci, le Conseil des ministres israélien a également débattu un nouveau projet réglementaire pour promouvoir les valeurs sionistes au sein de la politique gouvernementale, qui, selon ses critiques, pourrait permettre aux Israéliens juifs de bénéficier d'un statut préférentiel en matière de planification urbaine, de logement et de construction. Bon, je veux dire qu'on veut aggraver la situation, parce que c'est pas nouveau quand même, hein, dans le décor. Hein, ça existe bien quand même.
Tout à fait.
Voilà. Alors, comme il nous reste peu de temps, je vais conclure et tu essaieras, Jean-Yves, de trouver quelque chose qui puisse faire la conclusion. Donc, Madame Bichara a déclaré que cette loi, si elle était adoptée, pourrait être soumise à un contrôle de constitutionnalité eu égard à son applicabilité en Israël. Bon, si c'est la Cour suprême, tu vois ce que je veux dire, le contrôle de constitutionnalité.
Sauf que avec les nouvelles lois qu'ils veulent faire passer, la Cour suprême, elle aura même plus son mot à dire.
Deux votes. Il suffira de deux votes à la Knesset. Le premier dira non, et le deuxième dira oui à la majorité simple. Donc, il s'agit d'une violation éhontée du droit international humanitaire et des droits humains qui s'appliquent en Cisjordanie en tant que territoire occupé, a alerté Madame Bichara. En cas d'adoption, cela conduira à approfondir le système d'annexion de facto des territoires occupés et pourrait être considéré comme un processus d'annexion déjuré en infraction totale avec les lois sur l'occupation, a-t-elle conclu. Voilà, Jean-Yves, à toi. Tu as à peu près 3 minutes et demie. Hein.
3 minutes. Je voudrais revenir sur quelque chose qui s'est passé début mai, donc vers le 7-8 mai, Israël avait repris des bombardements contre la bande de Gaza assiégée. Et donc il y a un site belge, Charleroi pour la Palestine, .be, qui donne des informations et des analyses extrêmement pertinentes. Et ils ont fait un article disant « Les enfants assument le poids des attaques israéliennes qui ciblent les maisons de Gaza ». C'est vrai, on n'imagine pas, on parle des Ukrainiens mais, qui se prennent des bombes, mais à Gaza, c'est tous les jours, il y a des enfants qui n'ont jamais connu autre chose que le blocus et la guerre, les avions, les F-16 ou je ne sais pas quoi, qui passent le mur du son au-dessus de chez eux, etc.
Quoi. Non, mais est-ce que j'ai mal compris ou tu veux dire qu'ils ciblent les endroits où il y a beaucoup d'enfants? Non, ce n'est pas ça.
Non,
ils n'en sont pas encore là.
Ils ne ciblent pas. Ah, d'accord. Mais, non, en fait, mais ils tuent des enfants.
Oui, oui, non, je croyais que j'ai cru
qu'ils
ciblaient les familles nombreuses pour être sûr d'arriver à leur fin.
Non, non, pas du tout. Mais en fait, les enfants, où qu'ils soient dans la bande de Gaza, parce qu'on parle des bombardements israéliens, mais il y a aussi le survol par les avions de guerre. Un enfant, enfin, moi je me souviens dans mon enfance, passer près d'un aéroport, un avion qui me passait au-dessus, mais j'ai une trouille bleue. Alors oui, imaginons un enfant qui voit ça tous les jours ou presque de la semaine, de l'année, etc. Et donc qui voit sa maison détruite, qui entend en permanence les drones qui passent au-dessus de lui et ses parents qui sont inquiets, bien entendu. Et en fait, de début mai, donc il y a des enfants qui ont été tués. Et dans l'article, donc, en fait, il y a Tariq Izzedine, impliqué dans les activités du djihad islamique, et il a été transféré de force vers Gaza. Lors du bombardement en mai, il a été tué en compagnie de ses deux enfants, Ali, 8 ans, et Mayar, 12 ans, quand Israël a frappé leur immeuble résidentiel dans le centre de Gaza.
Il savait qu'il était là.
Il savait que lui était là, mais il savait que les enfants, certainement, étaient là, parce qu'ils sont quand même bien formés. Et donc, des avions de combat israéliens ont aussi frappé une maison de deux étages, tuant un dirigeant du djihad islamique, sa femme et leur fille de 4 ans. Leur voisine, 19 ans, a été tuée aussi, ainsi que sa sœur Iman, 17 ans, décédée de ses blessures un peu plus tard dans la journée. Et donc le porte-parole en chef de l'armée israélienne a expliqué « L'opération a été menée avec professionnalisme et précision dans sa planification et son exécution. Ce sont des assassins, il n'y a aucun endroit sûr pour les enfants et ils sont dans un état psychique lamentable. »
Voilà,
donc c'est important de le dire, tu avais parlé des enfants qui étaient emprisonnés, ceux-là, ils sont bombardés.
Donc, merci de votre attention et nous vous disons au mois de juillet.
Voilà, bon, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.